Vous écoutez France Culture.
L'heure des informations avec vous, Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir. Le Hamas se dit prêt à une trêve de 24 heures. La nuit dernière, les tirs israéliens ont frappé des points stratégiques pour déstabiliser le mouvement islamiste. Nous appellerons Mathilde Lemaire à Gaza. Parvenir à 32% d'énergie renouvelable en 2030, c'est l'un des objectifs du projet de loi sur la transition énergétique de Ségolène Royal. Avant-goût avec Stéphane Robert. Les chaînes LCI, Paris Première et Planète Plus resteront payantes. Le CSA refuse leur passage à la TNT gratuite. Nous analyserons les conséquences de cette décision avec Clémence Fuléda. Et à 18h15, le programme du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Eh bien, on parlera de l'état social et on se demandera si c'est vraiment l'état social qui bloque la France.
À tout à l'heure. Le contraste avec l'accalmie d'hier est saisissant. Depuis cette nuit, les raids aériens et les frappes se succèdent à Gaza. L'unique centrale électrique du territoire est hors service et l'armée israélienne a visé des lieux stratégiques pour le Hamas. Nous sommes en direct avec Mathilde Lemaire, notre envoyée spéciale à Gaza. Qu'avez-vous vu, Mathilde ? Que pouvez-vous nous dire ce soir ?
Eh bien écoutez, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de Gazaouis restent terrés, paralysés par la peur. On les voit très peu dans la rue après le déluge de feu de la nuit dernière. Ceux qui sortent découvrent dans le centre-ville les lieux stratégiques du pouvoir, vous l'avez dit, le plus souvent en ruine, en poussière. Le ministère des Finances, par exemple, l'immeuble du leader politique Ismaël Haniyeh, la télévision Al-Aqsa. Le Hamas a été touché au cœur. Et puis la centrale électrique qui alimente en courant un tiers de l'enclave palestinienne est aussi partie en fumée. Il faudra un an au moins, on l'estime, pour l'avoir redémarré. Littéralement anéanti également l'une des principales mosquées de Gaza, la mosquée Al-Amin Mohamed. Dans les décombres, les restes de Coran encore fumants se mêlent aux restes d'obus. On estime que ces violences de la nuit dernière ont fait au moins 60 morts. Les rares habitants que l'on croise nous disent qu'ils craignent d'être les prochains, qu'ils appréhendent de revivre une telle nuit de calvaire. Alors ils tentent de fuir, certains dans une direction, d'autres à l'opposé, sans cohérence. Quelquefois, c'est la deuxième, la troisième fois depuis le début de ce conflit qu'ils se déplacent en quête d'un endroit plus sûr où dormir en vain. 215 000 personnes sont maintenant déplacées à l'intérieur même de cette bande de Gaza avec le sentiment d'être prises au piège sans aucun espoir de sortie.
Mathilde Lemaire en direct de Gaza avec Benjamin Chauvin. Le Hamas serait prêt à une trêve humanitaire de 24 heures. De nouvelles réunions diplomatiques se tiennent aujourd'hui au Caire. L'autorité palestinienne, le Hamas et le djihad islamique ont formé une délégation conjointe. Alors ces réunions en Égypte peuvent-elles aboutir ? Nadine Epstein a sollicité l'analyse de Hugues Lovat, coordinateur du projet israélo-palestinien du Conseil européen.
Si on regarde en 2012, par exemple, le cessez-le-feu, et la manière dont on a pu en arriver à là, c'est vraiment c'était ce rôle égyptien qui était clé, être le messager entre les Égyptiens et le Hamas et les Américains. Mais depuis la chute du président Morsi et maintenant l'arrivée au pouvoir du président Sisi qui est très anti-frère musulman et anti-Hamas, on a perdu ce rôle et d'où l'impasse actuelle. D'après les dernières annonces, il y aurait peut-être un certain mouvement du côté égyptien. Il est possible que maintenant les Égyptiens soient prêts à accepter un représentant du Hamas.
C'est peut-être pour ça que le président palestinien Mahmoud Abbas est aujourd'hui au Caire.
Cette proposition de l'autorité palestinienne de pouvoir fournir des soldats, des gardes pour surveiller la frontière entre l'Égypte et Gaza, pour peut-être pouvoir soulager le blocus, ça aide à débloquer un petit peu. Mais aussi, il faut comprendre que du côté du président Mahmoud Abbas, c'est aussi une envie de ne pas vouloir voir le Hamas emporter une victoire et pouvoir pousser de côté l'autorité palestinienne, comme on a vu en 2012. Donc il y a aussi vraiment cette dynamique intra-palestinienne qui est toujours très marquant.
Est-ce que de son côté, Israël envisage une sortie ?
Ils ont essayé de détruire l'arsenal de roquettes, de missiles de Hamas, à moins deux reprises avant et sans succès. À moins d'avoir un cessez-le-feu qui puisse convenir au Hamas et aussi côté israélien, c'est difficile de voir pour Israël une autre issue que de s'enfoncer de plus en plus sans réelle sortie. Ça veut dire de plus en plus de pertes israéliennes, de Palestiniens tués, et ça veut dire donc beaucoup plus de pression sur le Premier ministre Netanyahou. Mais le problème, c'est que chacun veut pouvoir démontrer une victoire pour montrer qu'ils ont gagné, en fait. Donc ce qu'on a vu en 2012, l'intérêt de côté est de trouver un cessez-le-feu. Donc que ce soit demain ou dans une semaine, on trouvera quelque chose.
En Libye, les affrontements entre milices rivales se poursuivent et face à l'insécurité croissante, la France a décidé d'évacuer ses ressortissants. L'ancien ambassadeur français à Tripoli, Christian Greff, est amer. Pour lui, la France a sa part de responsabilité dans ce chaos libyen.
Mon impression, c'est que c'est le chaos. En vertu du principe de précaution, le gouvernement français a décidé le rapatriement de ses derniers ressortissants là-bas. ne sont plus que 300, ils ont été des milliers et des milliers qui coopéraient avec la Libye de Kadhafi. Et puis tout ça est parti à voler en éclats. Les Français qui étaient là-bas pour travailler, pour coopérer, pour collaborer dans le cadre de contrats. Les expatriés, c'était quoi? C'était des techniciens. C'est la responsabilité de la France. Parce que ce qui aboutit à ce chaos, nous y avons notre responsabilité. Et cela me bouleverse profondément. Vous avez en gros les anciens kadhafistes. Vous avez à l'opposé les frères musulmans, ceux que le régime égyptien a mis au pas, s'il ne les a pas mis au fer. Et entre les deux, vous avez des bandes de brigands qui essayent de récupérer la richesse, l'or noir, les fonds souverains, etc. C'est un cas où il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État libyen. La France devrait envoyer 10-20 canadaires, et je vous dis, ma tristesse, une certaine incompréhension que l'on n'ait pas, sur le plan humanitaire, envoyé aujourd'hui à Tripoli en feu des canadaires pour éteindre, comme on le fait au Portugal, comme on le fait en Italie.
Christian Greff, ancien ambassadeur de France en Libye. La Russie, visée par une série de sanctions économiques, elles viennent d'être adoptées par l'Union européenne au cours d'une réunion des ambassadeurs à Bruxelles. Les 28 veulent mettre la pression sur Moscou pour que la Russie cesse de soutenir militairement les séparatistes ukrainiens. On fait le point avec Grégoire Laurie à Bruxelles.
Pour la première fois, l'Union européenne frappe de sanctions l'économie russe. La destruction du vol de la Malaysia Airlines a finalement rapproché les positions entre des États membres très divisés sur cette nouvelle étape dans le processus de rétorsion. Les 28 pourraient fermer leur financement aux banques publiques venues de Russie, présentes sur les territoires européens. L'option d'un embargo sur les armes est-elle aussi envisagée, mais elle ne concernerait que les contrats à venir, une mesure qui permettrait à la France d'assurer la livraison de 2 porte-hélicoptères. Les 28 se sont aussi entendus sur des sanctions dans le domaine énergétique, mais elles ne concerneront que le secteur pétrolier. L'Union dépend trop du gaz russe pour pouvoir s'attaquer à cette ressource. Les Européens élargissent aussi la liste des personnes et des organisations concernées par un gel des avoirs et des interdictions de visa. Cette fois-ci, l'Union veut toucher des hommes proches du président russe. Il s'agirait de 4 hommes d'affaires et de 4 entités soupçonnées de participer aux tensions en Ukraine ou d'avoir bénéficié de l'annexion de la Crimée. Le but de ces nouvelles sanctions est bien de frapper plus directement l'économie russe, tout en épargnant au mieux les intérêts européens.
Les combats dans l'Est ukrainien ont causé la mort d'au moins 22 civils au cours des dernières 24 heures et parmi eux, plusieurs enfants. Crimes contre l'humanité et trafic d'organes, ce sont les charges qui pèsent contre plusieurs membres dans l'ancienne Ucheka, l'armée de libération du Kosovo. Ils seront jugés devant le tribunal international chargé de juger les crimes de guerre commis pendant le conflit serbo-kosovar. L'annonce a été faite à la mi-journée par le procureur responsable de l'enquête internationale. Laurent Rouy, vous êtes en direct de Belgrade. L'enquête menée par les services du procureur Clint Williamson a porté sur la mort de 500 personnes et sur la disparition de 300 autres.
Oui, et il aura fallu presque 3 ans et demi d'enquête pour que le procureur de la mission européenne au Kosovo et Oulex, l'américain Clint Williamson, achève l'enquête sur les disparitions de ces civils serbes au Kosovo et sur les accusations de trafic d'organes contre les dirigeants de la guérilla albanaise de l'Ucheka. Aujourd'hui, le procureur a annoncé qu'il y aura des inculpations pour crimes contre l'humanité contre des hauts responsables de la guérilla albanaise. Clint Williamson n'a pas voulu nommer les personnes en cause, car ces inculpations ne pourront avoir lieu en tout état de cause qu'après la création d'un tribunal spécial qui pourrait voir le jour avant la fin de l'année. Le procureur évoque aussi une petite dizaine de cas de trafic d'organes, mais dit ne pas disposer encore de suffisamment de preuves. En revanche, c'est l'enquête sur les tortures et les traitements inhumains qui est achevée et c'est elle qui servira de base à un futur procès. Cette annonce, eh bien, elle a déçu les associations de victimes serbes qui réclament des inculpations immédiates. Il semblerait malheureusement que l'épilogue judiciaire doive encore se faire attendre de longs mois.
Laurent Rouet en direct de Belgrade. La France a remis Mehdi Nemmouche aux autorités belges. Ce franco-algérien de 29 ans est le principal suspect dans l'enquête sur la fusillade du musée juif de Bruxelles qui avait causé la mort de 4 personnes. Mehdi Nemmouche était écroué à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy depuis le 4 juin. Les dépenses énergétiques représentent aujourd'hui 6,2% des dépenses globales des ménages. La facture continue de s'alourdir, principalement à cause du chauffage. Les dépenses d'énergie pour le logement ont augmenté de 100 euros en 2013. Comment la France peut-elle devenir plus économe en énergie et moins dépendante du nucléaire et des énergies fossiles? C'est à ces questions que tente de répondre le projet de loi sur la transition énergétique présenté demain en Conseil des ministres. Stéphane Robert, vous êtes au ministère de l'Écologie, où Ségolène Royal a présenté les grandes lignes de son projet de loi. Sur quoi a-t-elle mis l'accent ?
Alors, la priorité des priorités de ce projet de loi, dit Ségolène Royal, c'est la rénovation énergétique. Il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises, les collectivités locales à rénover tous les bâtiments mal isolés, à investir en quelque sorte dans la faible consommation d'énergie pour les années à venir. Triple avantage, explique la ministre, ça va réduire la facture des Français à titre individuel, ça va réduire la consommation d'énergie et donc réduire globalement la facture énergétique de la France, elle est aujourd'hui de 64 milliards d'euros. Et puis trois, ça va permettre de créer des emplois via la filière du bâtiment, 100 000 emplois sur les trois prochaines années selon les estimations de la ministre. Tout ça doit être initié par une politique fiscale avantageuse, crédit d'impôt, prêt à taux zéro. L'État prévoit d'investir 10 milliards d'euros sur les trois prochaines années. Alors le bémol, c'est que ces avantages fiscaux font partie des baisses d'impôts annoncées de façon globale par Manuel Valls à partir de l'année prochaine, 2015. L'autre bémol dans ce projet de loi, c'est que Ségolène Royal a renoncé à prendre la main sur le nucléaire et à fermer telle ou telle centrale. Son ministère va simplement fixer dans un programme pluriannuel la part du nucléaire dans la production globale d'électricité. On est aujourd'hui à 75%, l'objectif est d'arriver à 50%. À horizon 2025, ça veut dire que ce sera peut-être 2026 ou 2027, on verra. Et ce sera donc à EDF, en fonction de cette part d'énergie nucléaire autorisée, de décider de la fermeture de telle ou telle centrale, ce qui laisse dubitatif un certain nombre de défenseurs de l'environnement. En résumé, il y a un certain nombre de mesures dans ce texte qui vont initier la transition énergétique, mais aussi un certain nombre d'objectifs dont on se demande comment ils seront atteints.
Stéphane Robert, en direct du ministère de l'Écologie. Certaines mesures du projet de loi sur la transition énergétique doivent contribuer à doper les entreprises du bâtiment. Mais en attendant, les indicateurs sont mauvais dans le secteur du BTP et les professionnels le ressentent durement, Laurent Vatrin.
Un chiffre éloquent livré par le ministère de l'Écologie, 305 700 mises en chantier sur les 12 derniers mois en France. C'est le niveau le plus bas depuis 15 ans et ça représente une baisse de 11% sur une période d'un an. Les chantiers privés sont en panne, la rénovation marque le pas, les jeunes ménages n'investissent plus dans leur logement et les artisans constatent des comportements nouveaux. Yves Gambu est plombier chauffagiste à Saint-Leu-la-Forêt en région parisienne.
Particulièrement au niveau de ma clientèle, des petits travaux de dépannage pour lesquels ils m'appelaient précédemment, ils auraient tendance à se débrouiller par eux-mêmes. Il y a aussi la clientèle qui, elle, peut avoir le financement nécessaire, mais qui, dans le doute, préfère le conserver au cas où surviendrait un problème dans le foyer. Eh bien, l'argent de côté, on n'a pas du tout envie de le déplacer. Je ne vous parle que du logement privé par rapport à mon expérience professionnelle et des collègues que je peux voir autour de moi. Hélas, on voit des collègues qui arrêtent carrément leurs activités.
Alors l'éclaircie dans le tableau noir, on peut la voir sur les constructions de résidences étudiantes ou des maisons de retraite qui progressent. Ce sont principalement des chantiers publics financés par les collectivités locales et l'État. Mais ça ne fait pas beaucoup, à peu près 6000 chantiers en ce moment. Selon l'INSEE, cette crise du BTP qui dure va freiner la croissance et les rentrées fiscales de l'État. Et de leur côté, les organisations professionnelles du bâtiment doutent de l'efficacité du pacte de responsabilité. En attendant, l'embellie peut-être du côté du projet de loi de Ségolène Royal.
Fin de non-recevoir pour LCI, Paris Première et Planète Plus. Les trois chaînes payantes voulaient rejoindre la TNT, la télévision numérique terrestre. Elles viennent de se heurter au refus du CSA. Parmi les arguments du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la fragilité du marché publicitaire et le risque de déstabiliser plusieurs chaînes gratuites. Clémence Fuléda.
Oui, le CSA a estimé que la situation financière de BFM et ITL était encore trop fragile. La menace de ces chaînes de supprimer une cinquantaine d'emploi si LCI devenait gratuite semble donc avoir fonctionné. Les sages soulignent également que les investissements publicitaires sont en baisse. Effectivement, l'année dernière, ils sont contractés de 3,5% selon l'agence France Pub. Le CSA estime donc que le marché ne pourrait pas absorber l'arrivée d'un petit nouveau, qui plus est adossé à un grand groupe comme TF1 et donc capable de largement capter les recettes publicitaires. Alors l'association des chaînes indépendantes qui regroupe entre autres l'équipe 21, BFM TV Énergie, se félicite de la décision du CSA. Il salue son coût courage et son indépendance. Mais à LCI, les journalistes ont accueilli la nouvelle dans un silence de mort. Il faut dire que Nance Paolini, le PDG de TF1, avait prévenu « Si LCI ne devient pas gratuite, elle devra tout simplement fermer à la fin de l'année, laissant ses 247 employés sur le carreau ». Éric Revel, le directeur général de LCI, s'est exprimé sur sa propre chaîne cet après-midi. Il s'est dit profondément attristé, mais surtout très en colère.
Ma colère de voir un organisme administratif décider finalement du sort d'une entreprise privée, qui plus est, une chaîne d'infos. Lorsqu'on sait que le CSA, de par la loi audiovisuelle, se voit confier la garantie du pluralisme d'information, on peut vraiment s'interroger sur cette décision qui me scandalise.
Le sort de LCI n'est pourtant pas encore totalement fixé. Le CSA a laissé la porte ouverte à un nouvel examen si les conditions du marché publicitaire s'améliorent. Autre possibilité, que LCI soit rachetée par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Le trio qui détient déjà le groupe Le Monde s'est dit prêt la semaine dernière à racheter la chaîne.
Merci Clémence. Enfin, ces informations en provenance d'une télévision israélienne. Toutes les parties seraient d'accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Le timing, nous dit-on, reste encore à déterminer. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça ira mieux demain, je parle de la météo. Il y aura encore des averses dans l'Est en matinée, mais elles faibliront l'après-midi. Le temps sera sec et ensoleillé ailleurs. Les températures atteindront 20 à 28 degrés du nord au sud jusqu'à 33 en Provence. C'est la fin de ce journal, préparé avec Emmanuel Faucillon. Les informations de 22h seront présentées par Stanislas Vazak.